Merci Jean-Louis Cohen pour cet exposé extrêmement vivant et qui nous a fait vraiment revivre cette époque comme si on y était, si je puis dire. J'aurais quelques questions à vous poser, mais ce n'est pas le lieu de le faire. Ce sera pour après, pour la discussion. Et je vais donc donner la parole à présent à Frédéric Seys, qui va nous parler, lui, d'une autre école, l'École spéciale d'architecture.
Bien. Alors, bonsoir à tous. Avant de parler de l'École spéciale d'architecture, je voudrais dire un mot sur la tonalité d'un certain nombre d'exposés que j'ai entendus cet après-midi, et en particulier de la part de nos jeunes collègues. Et je voudrais attirer leur attention, je ne sais plus, je ne les vois plus dans la salle, mais ils doivent être là, j'imagine. Je voudrais attirer leur attention sur les risques, les problèmes que pose une histoire des techniques désincarnées. Je pense en particulier à l'exposé que nous avons entendu sur l'industrialisation, qui était fort intéressant et dans lequel il y avait énormément de choses que probablement beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas. Et je voudrais attirer l'attention de son auteur sur deux choses. D'une part, il me paraît difficile de parler d'industrialisation en France dans la période qui nous intéresse cet après-midi, sans évoquer le camp de Drancy, qui a été certes construit avant la guerre, c'est incontestable, mais qui, inachevé à la déclaration de guerre, a été utilisé par le régime de Vichy pour interner un certain nombre de gens qui ont fini dans les camps de concentration. Et puis, je voudrais aussi dire que ça me paraît difficile de parler de Neufert, qui était un architecte allemand, sans évoquer le problème de l'industrialisation en Allemagne et de la manière dont l'industrialisation a été utilisée en Allemagne, qui est un espèce d'écho à ce qui a été fait en France, sauf que les travaux sur l'industrialisation en Allemagne ont été utilisés, pardon de le rappeler, pour construire des camps de concentration. Et voilà, donc j'ouvre peut-être le débat que nous avons ce soir, peut-être nous en parlerons, peut-être nous n'en parlerons pas, je ne sais pas, mais je voulais quand même le dire parce que c'est peut-être un effet générationnel, mais je suis très attentif à ces questions-là. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'École spéciale d'architecture, malheureusement de façon beaucoup moins approfondie que Jean-Louis nous a parlé de l'École des Beaux-Arts, pour deux raisons. La première, c'est que je connais bien l'École spéciale d'architecture parce que j'en ai écrit son histoire pour la période qui va de sa fondation, l'année 1865 jusqu'aux années 30, 1930. Que le deuxième tome dont on parle de temps en temps, ou plutôt même souvent, ne voit pas le jour pour l'instant. Qu'en revanche, je ne suis pas un spécialiste de la période de Vichy, mais que bien sûr, c'est un thème auquel je suis très sensible. La deuxième raison, c'est que, contrairement à ce que j'ai pu comprendre de l'intervention de Jean-Louis, les archives des années 39-45 de l'École spéciale sont remarquablement vides. C'est-à-dire qu'on ne retrouve rien. Alors c'est très curieux parce que, autant sur la période 1865-1930 sur laquelle j'ai travaillé, tout existe, tous les comptes rendus de conseils d'administration sont là, tous les comptes rendus d'Assemblée générale sont là, tous les sujets proposés aux élèves sont présents, un certain nombre de projets ont subsisté, les notes administratives sont abondantes, les discours de rentrée y sont, les programmes pédagogiques, tout y est. À partir de 1939, il n'y a plus rien. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces archives ont été perdues volontairement ? Est-ce qu'elles se sont égarées par accident ou par négligence ? Ou est-ce que, comme certains le prétendent à l'intérieur même de l'École spéciale d'architecture, elles se sont évanouies dans la tourmente de mai 1968 ? Ce n'est pas impossible, mais je trouve que la tourmente de mai 1968 a bon dos. Ce n'est pas le cas. Bon, donc voilà. Alors, bon, toujours est-il que le résultat est là. Je n'ai retrouvé dans les archives, et j'ai vraiment retourné les archives dans tous les sens avec l'aide de la bibliothécaire de l'école, je n'ai retrouvé que quelques très rares notes administratives, quelques documents pédagogiques, mais très très peu. Et en fait, je n'ai pu me baser essentiellement que sur les textes écrits qui sont restés, notamment dans les revues, dans la presse professionnelle, par un certain nombre de responsables de l'école. Alors, à partir de là, j'ai essayé de reconstituer le fonctionnement de l'institution pendant la période de l'occupation, puisque c'était la mission que Jean-Louis m'avait confiée, et je vais essayer de vous livrer ce que j'ai pu y retrouver. Alors, je commence un petit peu avant la guerre, parce qu'il y a là aussi une continuité qui s'établit. En 1929, la direction de l'école spéciale est confiée à Henri Prost. Alors, Henri Prost est un architecte considérable à cette époque-là. C'est un élève qui a un architecte qui est diplômé de l'école spéciale d'architecture en 1892, qui est un des rares élèves de l'école spéciale d'architecture à entrer à l'école des Beaux-Arts, à passer le diplôme d'architecte des PLG en 1902 et à devenir Grand Prix de Rome la même année. Donc c'est, je crois, le seul DESA Grand Prix de Rome. Il a une carrière tout à fait exceptionnelle. Il se consacre beaucoup à l'urbanisme, ce qui est peut-être une des caractéristiques qu'il a retirées de l'école spéciale, notamment de l'urbanisme colonial. Et quand on regarde le parcours d'Henri Prost, on retrouve le nom de Lyoté, qu'on a évoqué ce matin, qui a été très important dans les projets qu'il a eu à réaliser en Afrique du Nord, en Turquie et ailleurs. Bien. Alors, Henri Prost, c'est une révolution à l'école, puisqu'il succède au clan Trélat. Le clan Trélat, c'est le clan mis en place par le fondateur, Émile Trélat, en 1865, auquel succède son fils, Gaston Trélat. Et l'arrivée d'Henri Prost est l'occasion d'une réorganisation administrative et pédagogique de l'école qui est relativement importante, qui se traduit par un rapprochement de l'école de son autorité tutelle, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, la réforme de ses enseignements, la création de nouveaux cours, et c'est Henri Prost qui introduit des cours sur l'organisation des chantiers dans les écoles d'architecture, c'est pas banal, même encore aujourd'hui, je crois. C'est Henri Prost qui introduit des cours sur l'urbanisme ou l'aménagement des jardins, et c'est lui qui fait également appel à un certain nombre de personnalités nouvelles. Je cite en particulier Jean Royer, qui est lui-même un architecte des ESA, qui connu notamment parce qu'il a dirigé deux revues successives, Le Maître d'œuvre et la revue Urbanisme, qui lui a succédé en 1926, je crois, et qui a, pendant une quinzaine d'années, travaillé avec Henri Prost sur le plan de la région parisienne. Alors, Jean Royer est chargé de l'administration des études, puis assure la présidence du conseil d'administration. On trouve également une personnalité qui s'appelle Fernand Fenzi, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, architecte des ESA en 1921, installé à Antony. Il est en fait architecte municipal à Antony, et il est le vice-président de la Société des architectes diplômés de l'École spéciale d'architecture, la SADESA. Fernand Fenzi a la charge de l'atelier des admissions. Et puis on retrouve trois autres noms, Auguste Perret, Pierre Le Bourgeois et François Lecoeur, qui vont animer des ateliers. François Lecoeur étant remplacé peu de temps après par Henri Gautruche. Cette entreprise de modernisation et la mise en place de cette équipe nouvelle laissent espérer un bel avenir à l'École spéciale d'architecture, en tous les cas un beau renouveau, mais la déclaration de guerre en septembre 1939 et l'installation du régime de Vichy à partir du 10 juillet 1940 mettent brutalement fin à cet espoir, à cette espérance. De 1935 à 1939, Henri Prost, qui, comme le dit Jean-Pierre Frey, avait comme règle de conduite de résider dans les pays dans lesquels il intervenait, partage sa vie entre Paris et Istanbul, où il travaille pour le gouvernement turc. À la déclaration de guerre, il est, selon Jean Royer, bloqué et, selon Arthur Eaume, retenu en Turquie. Il abandonne de facto la direction de l'école. Mais il ne s'en éloigne pas complètement. Il ne la reprendra véritablement qu'en 1951. Jean Royer est mobilisé, puis occupe d'importantes fonctions techniques dans l'administration de l'urbanisme. Il sera en particulier sous-directeur des services techniques au commissariat à la reconstruction immobilière en 1941. Auguste Perret, quant à lui, dont Arthur et Aume, qu'il est enfin reconnu comme le grand homme parmi les grands, ne pouvait plus consacrer le temps nécessaire à la vie de l'école. Seul reste alors Fernand Fenzi, à qui le conseil d'administration fait appel pour assurer la direction de l'école, ainsi que Pierre Le Bourgeois, Henri Gautruche, qui tous deux, pleins d'abnégation, selon Arthur et Aume, assumèrent leurs fonctions bénévolement et se dévouèrent à leurs jeunes élèves pendant toute cette période tragique. Alors, le bénévolement s'explique, et je fais une parenthèse, sur le fait que l'école spéciale est une école privée. C'est la seule école privée depuis le début, école privée d'architecture en France. Elle a un statut d'association, c'est pas une entreprise au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. C'est une association, mais qui ne vit que sur les frais d'entrée payés par ses élèves. Elle a quelques subventions des pouvoirs publics, mais elle vit essentiellement des cotisations payées par les élèves. Et donc, évidemment, la guerre, comme on va le voir tout à l'heure, tarit beaucoup le flux d'entrée, et la situation financière va évidemment s'en ressentir. Donc, d'où l'idée de fonction bénévole assurée par certains professeurs de l'école. Alors, au-delà des apparences et de l'image qu'ont voulu laisser ceux de ses membres qui ont survécu à la guerre, l'équipe qui a été mise en place par Henri Prost et qui anime l'école spéciale d'architecture est loin d'être homogène, notamment du point de vue de l'attitude à adopter face à l'occupant nazi et au régime de Vichy. Celui dont je voudrais parler notamment, c'est Fernand Fenzi, parce qu'il est l'un des très rares à choisir le camp de la résistance. Démobilisé en 1940, il rejoint les forces françaises de l'intérieur et fait partie, dès le mois de juin 1941, d'un réseau de résistance qui s'est appelé FIL, puis Alibi, qui a travaillé pour l'intelligence service britannique. Il est arrêté par la Gestapo française en octobre 1941. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a deux versions. Il y a la version qui est répandue à l'école, qui dit « il a été arrêté dans le hall de l'école ». C'est une manière de récupérer l'héroïsme de Fenzi. Et puis, il y a la version du dictionnaire Métron, qui dit qu'il a été arrêté au moment alors qu'il effectue un déplacement dans le nord de la France. Je penche plutôt pour la version du Métron. Donc, il est arrêté en 1941. Il est livré aux Allemands, torturé, incarcéré à Fresnes. Il comparaît le 20 mars 1942 devant un tribunal militaire, en compagnie de 5 autres membres de son réseau. Il est condamné à mort pour espionnage, fusillé le 21 mars, à l'âge de 41 ans, au Mont-Valérien. À son nom, il faut associer ceux de deux élèves de l'école, également morts pour la France. Jean-Marie Plessier, dont j'ai vu que le nom figure d'ailleurs sur le document de l'École des Beaux-Arts que nous a montré Jean-Louis, parce qu'il était, je crois, en même temps élève à l'école. Alors là, c'est Jean Plessier, mais en fait, c'est Jean-Marie Plessier, son nom. De Winter, d'ailleurs, je ne sais pas d'où vient cette appellation de Winter, qui était lui-même membre des forces françaises de l'intérieur et qui est tombé lors de la libération de Paris devant le 30 avenue de Saxe le 25 août 1944 à l'âge de 19 ans. Et Louis Manchon, militaire au 1er régiment du Rhône, mort le 1er mars 1945 à l'âge de 23 ans des suites de ses blessures. Et ils sont tous reconnus comme étant morts pour la France. Alors, deux noms doivent être ajoutés aux trois que je viens de citer. Celui de Marcel Roby, qui est un professeur à l'école dont je ne suis pas absolument convaincu qu'il est le Marcel Roby, qui était un professeur de mathématiques au lycée de Saint-Germain-en-Laye et qui a été également arrêté. Et puis, le nom également de Marcel Viraud, qui était, selon les registres de l'École spéciale d'architecture, architecte des ESA en 1942, mais sur lequel je n'ai aucun renseignement. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on ne retrouve rien sur ces personnalités dans les archives de l'école. Le seul moyen de retrouver leur nom, c'est la plaque qui est apposée dans le hall de l'école, qui comprend les morts pour la France de la guerre de 14-18 et de la guerre de 39-45, sur lequel ces cinq noms sont apposés. Vous pouvez interroger qui vous voulez à l'école. Personne n'est capable de dire qui ils étaient et ce qui s'est passé. Et encore une fois, les archives ne permettent pas de le retrouver, donc il faut aller ailleurs pour le retrouver, en particulier sur des sites de la Résistance ou du ministère des Armées. Alors, ces exemples restent cependant exceptionnels. Tous les membres de l'École spéciale d'architecture n'ont pas en effet manifesté le même courage. Un certain nombre d'entre eux, estimant que la direction de l'école, et là je cite une note de l'école, une des rares que j'ai retrouvée, estimant que la direction de l'école ne pouvait faillir à sa mission, qu'elle se devait de continuer son enseignement comme elle l'avait fait pendant la Grande Guerre, afin de donner au pays un complément de cadre qui sera nécessaire à la reconstruction. Donc au nom de cette théorie, ils ont continué à faire fonctionner l'école et se sont même, d'une certaine manière, réfugiés dans une attitude beaucoup moins glorieuse que celle des personnalités que j'ai citées avant, voire bienveillante à l'égard du régime de Vichy. On se souvient que c'est de ce régime, que les architectes obtiennent une loi, celle du 31 décembre 1940, dont on a déjà parlé, qui réglemente la profession. Cette loi institue un ordre des architectes. Et j'ouvre une parenthèse sur ce point, parce que j'ai été extrêmement frappé de l'entendre à plusieurs reprises, de la part d'un certain nombre de hiérarques de l'ordre des architectes, anciens, pas actuels, m'affirmant sans frémir que l'ordre des architectes avait été créé par le Front populaire. Donc je ferme la parenthèse, on a les textes là-dessus et on sait que si le Front populaire a joué un rôle dans l'organisation de la profession, ça n'a rien à voir avec les principes corporatistes institués par Vichy, mais peut-être qu'on en parlera dans la discussion. Donc cette loi qui institue un ordre des architectes stipule que les membres de son conseil supérieur et ceux de ses conseils régionaux sont élus, mais prévoit également que dans l'attente de ces élections, les premiers conseillers sont nommés par décret du secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse pour le conseil supérieur, et par arrêté du même secrétaire d'État pour les conseils régionaux. Les pouvoirs de ces membres nommés, initialement limités dans le temps, sont en fait prolongés jusqu'en 1945. C'est donc le gouvernement de Vichy qui nomme Henri Prost et Auguste Perret au conseil supérieur de l'ordre, Henri Prost en devenant même le président, et un bruit court que c'est Auguste Perret, qui a été le premier président de l'Ordre, en fait, non, c'est bien Henri Prost. Et c'est le même gouvernement qui nomme Pierre Le Bourgeois et Charles Recoux, qui assurent la direction de l'École spéciale d'architecture depuis la disparition tragique de Fernand Fenzi, et qui les nomme donc au Conseil régional de la circonscription de Paris. La création de l'Ordre des architectes comporte pourtant de nombreuses dispositions qui sont difficilement acceptables. La première concerne l'École spéciale d'architecture elle-même, car parmi ces dispositions, il y a l'abolition des centrales syndicales et des associations professionnelles, et donc la disparition de la Société des architectes diplômés de l'École spéciale d'architecture, la SADESA, qui avait été créée en 1868 et qui est un des piliers forts de l'école. Mais il y a aussi la persécution des Juifs. À partir du 31 décembre 1940, pour porter le titre d'architecte et exercer la profession, il faut réunir un certain nombre de conditions. La première est évidemment d'être inscrit à l'ordre. Pour être inscrit à l'ordre, il faut être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, être titulaire d'un diplôme reconnu et présenter des garanties de moralité. À celle-ci s'ajoute, après un décret du 24 septembre 1941, les mesures discriminatoires imposées par les lois raciales, qui limitent notamment à 2% de l'effectif des architectes inscrits au tableau le nombre de Juifs admis à exercer la profession. Les différents conseils de l'ordre appliquent ces dispositions pour un bon nombre sans état d'âme, et je cite ce qui a déjà été dit ce matin, la question « Êtes-vous arien ?» ne figure-t-elle pas en tête du formulaire de demande d'inscription à l'ordre que doivent alors remplir tous les postulants. En acceptant de siéger dans ces conseils et d'appliquer cette politique, quatre dirigeants de l'École spéciale d'architecture ne se trouvent-ils pas être des vecteurs objectifs de la politique corporatiste et antisémite portée par le régime de Vichy? Mais la complicité va plus loin. Et je voudrais la poser quatre questions. N'y a-t-il pas complicité avec ce régime et son idéologie lorsque la revue Architecture française, qui a déjà été citée, au comité de rédaction de laquelle siège Auguste Perret, publie des messages au peuple du maréchal Pétain agrémentés d'un médaillon à sa gloire? On en a vu des exemples ce matin, je n'en ai pas apporté, mais il y en a énormément. N'y a-t-il pas connivence avec ce régime lorsque la revue Urbanisme, dont les liens avec l'école spéciale sont très très étroits, qui est dirigée par Henri Prost et Jean Royer, se voit remercié par François Le Hideux, secrétaire d'État à la production industrielle et délégué général à l'équipement national, de contribuer à la diffusion des politiques urbaines du maréchal Pétain. Éclairer le public sur ces points, écrit François Le Hideux, dans Urbanisme, c'est participer, et participer très utilement, à l'œuvre entreprise par le gouvernement du maréchal, que la revue Urbanisme et sa direction trouvent ici les remerciements du délégué général à l'équipement national. Je crois qu'on peut difficilement être plus clair. N'y a-t-il pas communauté de pensée avec ce régime lorsque Jean Royer appelle à entreprendre une reconstruction totale, matérielle et morale, dont le relèvement de nos cités en ruine n'est qu'un épisode, dit-il. Et n'y a-t-il pas enfin allégeance à ce régime lorsque la direction de l'École spéciale d'architecture propose aux élèves des exercices qui sont directement inspirés de la politique du gouvernement de Vichy? Et là, je retrouve des choses que Jean-Louis Cohen nous a dites tout à l'heure. Le 17 novembre 1940, ils sont par exemple invités à réfléchir au thème d'un gouvernement de province. Et le texte, enfin un extrait du texte de ce concours est le suivant: « La diversité dans l'unité de la nation s'affirme mieux par la division en province ou région, présentant des caractères physiques, ethniques et sociaux particuliers. Tout en laissant subsister les départements à la tête desquels les préfets auraient toute autorité administrative, la pensée du maréchal est de placer chacune de ces provinces sous l'égide d'un gouverneur. » Et les élèves avaient donc tout naturellement à choisir dans une province la cité destinée à recevoir ce gouvernement régional. Et il y a 4-5 pages de programme qui sont soumis à la réflexion des étudiants. Bien. Je reviendrai tout à l'heure sur d'autres sujets qui leur sont également proposés. Alors tout ça est oublié à la Libération. Et là, ça permet aussi de faire la transition avec la suite. Henri Prost et Jean Royer restent à la direction de la revue Urbanisme après 1945. Auguste Perret est élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur le 17 septembre 1946, de grand officier le 1er décembre 1949, avant de se voir confier la prestigieuse opération de reconstruction de la ville du Havre. Henri Prost est fait commandeur de la Légion d'honneur le 5 novembre 1951. Quant à Charles Recoux, il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 8 novembre 1949, et il reprend la direction de l'École spéciale d'architecture en 1959, après la mort d'Henri Prost. Et ce qui est très curieux, c'est que quand on regarde les dossiers qui sont constitués au moment où la Légion d'honneur est attribuée à toutes ces personnalités, on s'aperçoit que leur état de service pendant la période de Vichy est très naturellement présenté, elle n'est pas occultée, et voilà, comme s'il y avait une espèce de continuité dont on a parlé tout à l'heure ce matin d'autres manières. Bien. Alors, la proximité de ces dirigeants avec le pouvoir de Vichy n'empêche cependant pas l'École spéciale d'architecture, entre les années 39 et 45, de perdre son indépendance financière et son identité pédagogique. Alors, du point de vue de son indépendance financière, la situation est la suivante. En 1939, l'école spéciale est déjà depuis 4 ou 5 ans dans une situation tendue, en raison d'une diminution substantielle du nombre de ses élèves, conséquence de la crise du bâtiment qui sévit en France dans la seconde moitié des années 30. À la déclaration de guerre en septembre 1939, la situation devient catastrophique. La majorité des étudiants français est mobilisée. Les étudiants étrangers sont quant à eux rappelés dans leurs pays respectifs. Les effectifs deviennent squelettiques, 30 élèves en 39-40 et 40-41, 53 en 1941-1942, 57 en 1942-1943. L'arrivée de 30 nouveaux élèves en première année en 43-44 soulève de nouveaux espoirs, mais l'application de la loi sur le service du travail obligatoire entraîne la dispersion de la majeure partie des élèves des trois autres années dans les industries du bâtiment en Allemagne. De 1939 à 1944, l'école bénéficie certes de subventions de l'État et de la ville de Paris, mais cela ne suffit pas. Elle ne peut, par exemple, pas assurer la remise en état de l'immeuble qu'elle occupe au 254 boulevard Raspail, qui est toujours son siège actuel, qui est la propriété de la ville de Paris, mais dont elle, l'école, a conservé la charge entière et qui aura besoin de travaux urgents, de gros œuvres pour sa conservation. C'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, ce bâtiment est toujours propriété de la ville de Paris et l'école en a toujours l'usage et la charge. Évidemment, les circonstances ont un petit peu changé. Ce sont les sacrifices, et là je reprends une note de l'école, les sacrifices du personnel qui permettent la survie de l'école. La direction refusait toute rémunération ou n'acceptait en 1942-1943 qu'un traitement dérisoire. Le corps enseignant professait avec des rétributions misérables ou même gracieusement. Le personnel administratif consentait à une réduction de ses traitements. Chacun s'ingéniait à limiter au strict indispensable les dépenses les plus nécessaires. Et donc il va falloir attendre la fin de la guerre pour que l'école regagne un nombre d'élèves suffisant pour lui assurer une situation financière plus confortable, et le départ se fera progressivement à partir de 1945. Du point de vue de l'identité pédagogique, on a une situation également un peu brouillée. La pédagogie, si originale à ses débuts, de l'École spéciale d'architecture, est aussi, elle aussi, mise à mal par le régime de Vichy, qui promulgue le 17 février 1941 une réforme de l'enseignement de l'architecture, qui contraint l'école à se rapprocher de l'école des beaux-arts. C'est ce que rejoint ce que disait Jean-Luc Cohen tout à l'heure. Les élèves des promotions de l'époque acquièrent le droit de porter le titre d'architecte des PLG, alors que les diplômés de l'école spéciale sont architectes DESA. Donc ils acquièrent le droit de porter le titre d'architecte des PLG, mais en contrepartie, Georges Grosmort, qu'on a déjà cité, devient professeur de théorie, jouant en quelque sorte le rôle de directeur des études. Georges Grosmort fait de l'année d'admission à l'École spéciale d'architecture une année d'acquisition des théories de l'architecte de la Renaissance, Vignolles. C'est aussi simple que ça. Et il fait de l'école dans son ensemble un succès d'année de l'École des beaux-arts. Toute prise de la construction était absente, dit Arthur Ehome, qui est lui-même un des classique de l'école, donc toute prise de conscience de la construction était absente, toute forme d'expression autre que classique était exclue, à mon avis, c'était la négation même de l'esprit de l'ESA. Et il continue en disant que les ateliers vivaient dans une certaine insouciance de l'expression architecturale. Dans l'ensemble, l'analyse de fonctionnement des programmes aboutissait en général à des compositions honnêtes, mais leur expression manquait de structure et d'originalité. Alors, j'ai retrouvé un grand cahier qui est celui, c'est pratiquement le seul document pédagogique qui reste de l'école, dans lequel il y a les sujets proposés par Grosmort, mais on ne retrouve rien d'autre. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on y retrouve exactement ce qu'on a vu avec l'École des beaux-arts. Avril 1942, sujet proposé aux élèves, un portique d'abri dans un parc. Putée d'édifice qui devait contribuer à l'embellissement d'un jardin public, servira à la fois d'abri aux promeneurs et permettrait d'exposer convenablement quelques statues et fragments antiques. Je ne continue pas. Octobre 1942, étude de moulure. Mars 1943, une orangerie. Octobre 1943, une villa Rubens à Bruxelles. Maison subventionnée par l'Institut, analogue à la Villa Velázquez à Madrid, et où pourraient séjourner les pensionnaires de l'Académie, en octobre 1943. En novembre 1943, une passerelle monumentale, qui, alors ça je l'ai retenue parce qu'elle concerne Compiègne, une passerelle monumentale qui, comme celle qui relie le théâtre de Compiègne à son château, et qui permet de passer de plein pied de l'étage noble du château au niveau de la loge d'avant-scène réservée, permettrait d'établir un passage entre un théâtre municipal et les salons de réception d'un grand hôtel de ville. Là aussi, on est en 1943. Toujours en 1943, une folie. On désignait, dit le sujet le programme du concours, on désignait ainsi vers la fin du XVIIIe siècle une petite habitation de campagne où on allait chasser deux ou trois jours en compagnie de quelques amis. Souvent, ces constructions analogues aux casins de la Renaissance italienne dépendaient d'une résidence plus importante comme Trianon, dépendaient de Versailles, etc. Bon, je passe sur le reste du sujet. Février 44, un presbytère. Mars 45, le porche d'une église romano-byzantine. Voilà, bon, il y en a comme ça des dizaines et des dizaines. Bon, le problème, c'est que je n'ai aucun projet. Voilà, tu as pu nous présenter des dessins, je peux n'en présenter aucun, il n'y en a aucun, je ne sais pas absolument pas ce qu'ils sont devenus, et on ne peut pas voir le résultat architectural de tout cela. Voilà, donc je ne peux pas dire grand-chose de plus sur l'école. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que en 1851, Émile Trélat avait refusé de prêter serment à l'empereur après le coup du 2 décembre, mettant alors provisoirement un terme à son ascension professionnelle. En acceptant de collaborer avec le régime de Vichy, ses héritiers ont trahi la pensée républicaine du fondateur de l'École spéciale d'architecture. Je trouve que le parallèle est quand même facile à établir. Mais ils ont également réduit à néant tous les efforts faits par leurs prédécesseurs pour cultiver l'originalité de l'école dans le paysage de l'enseignement d'architecture. Laboratoire d'idées et de méthodes nouvelles, l'École spéciale a été, selon ses fondateurs, à l'avant-garde de la formation de l'architecte, à l'origine et à certains moments à la pointe du mouvement architectural. Elle a attiré des maîtres et des professeurs bien avant qu'ils fussent officiellement consacrés. Elle a créé des enseignements scientifiques et techniques qui provoquaient des ricanements, avant d'être 10 ou 20 ans plus tard, inclus dans tous les programmes de l'École des Beaux-Arts. Et ce n'est pas complètement faux. Après avoir copié son diplôme, cette dernière a progressivement cherché à copier l'œuvre elle-même de l'École spéciale d'architecture. En acceptant l'étroit rapprochement des deux établissements, les héritiers d'Émile Trélat n'ont-ils pas permis au régime de Vichy de parachever cette entreprise de dépouillement et d'effacer durablement les spécificités originelles de l'école ? Je vous remercie.